Bon, Jean-Bernard Leroy à l'appareil. Voici donc mon premier laïus d'été, par une chaleur qui est enfin revenue. Alors, l'Italie et la ville de Rome étaient devenues des champs de bataille permanents entre factions rivales. La papauté s'installa en Avignon, parce que la révolte était continue à Rome. L'historien Léonard, qui a rédigé le chapitre correspondant de l'histoire universelle de la Pléiade, note « L'épisode d'Avignon comporte 7 papes qui se succédèrent de 1305 à 1378, soit pendant 73 ans. Plusieurs furent de bons papes, sans qu'aucun fût un mauvais pape. Cette séquence remarquable dans l'histoire de l'Église doit être mise au crédit du clergé français où se recrutèrent ces pontifes. Notons en passant que le comtat vénitien qui fut possession des comtes de Toulouse à partir de 1125 fut cédé à la France en 1271. Philippe le Hardi la céda au pape Grégoire XV en 1275. Pendant le XIVe siècle, les royaumes et l'Empire se sentaient de plus en plus puissants et contestaient au pape son pouvoir temporel. Des opinions nouvelles commençaient à se répandre sur ce sujet délicat. Citons les théories d'un franciscain anglais, Guillaume d'Ockham, qui fut appelé en Avignon pour s'expliquer sur des propositions qui furent condamnées en 1326. Ces récits soutenaient les positions de Louis V de Bavière, grand rival européen du roi de France. Il venait de triompher de Frédéric d'Autriche et se trouvait empereur. Comme beaucoup d'Italiens, il était jaloux du roi de France, suzerain d'Avignon, et accusait le pape de le favoriser, de favoriser le roi de France. Devenu empereur, Louis V songea à revendiquer ses droits sur l'Italie, pensant reconstruire ainsi une bonne part de l'empire de Charlemagne. La politique est toujours là pour embêter, pour pourrir tout le monde. Dans son soutien à l'empereur, il avait l'aide d'un autre, il avait l'aide de logiciens tels que Marsile de Padoue, dont on peut citer ce texte caractéristique. Sans doute, notre Seigneur a pris Pierre en particulier et lui a dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». Mais le Christ n'a nommé personne pour le remplacer. Cette position est plutôt saugrenue. Il aurait fallu 12 ou 13 siècles pour s'en apercevoir. Cette thèse, la thèse que le pape est une invention, sera reprise un siècle et demi plus tard par Calvin. Un autre humaniste, Marcille Puissin, allait encore plus loin. Constantin a fondé la papauté comme institution politique. Si le pape, l'évêque et les prêtres sont égaux en puissance, l'empereur peut élever l'un au-dessus de l'autre et établir une hiérarchie qui ne dépendra que du pouvoir civil. Puissin a pensé s'appuyer sur Saint-Luc, que le plus grand soit le serviteur des autres, phrase qui est avant tout un appel au dévouement. Le texte continuait. L'autorité réside dans le corps, dans l'ensemble des fidèles représentés par l'empereur. C'est donc à l'empereur d'élire ou de destituer dans l'Église. C'est lui qui doit convoquer ou de dissoudre les conciles. Guillaume d'Ockham ajoutait « L'infaillibilité dogmatique ne réside ni dans le pape ni dans les conciles, mais dans l'assemblée des fidèles. Curieuse démocratie. » On peut en voir les conséquences dans la multiplication des sectes protestantes. On peut aussi constater tristement que cet esprit n'est pas absent de plusieurs fonctions dissidentes, de plusieurs fractions dissidentes dans le catholicisme contemporain. Rien de nouveau sous le soleil. Le Christ nous aurait-il laissé seul après l'ascension? Dans une telle atmosphère, le pape n'osait plus guère s'aventurer en Italie où régnaient les Gibelins. Ils y étaient fort mal reçus. Louis V poursuivait sa conquête de l'Italie, obligeant Robert d'Anjou à quitter Naples. On oublie souvent que Naples a dépendu de l'Anjou pendant de longues années. Il alla jusqu'à nommer pape un certain Marsile de Padoue, qui prit le nom de Nicolas V, exerça son rôle d'antipape pendant 2 ans, de 1328 à 1330. Ce Nicolas faisait partie des fratricelles, ces franciscains qui voulaient tout, qui voulaient ne rien avoir, juste le droit à la parole. Il avait abandonné sa femme, ce Nicolas, pour vivre dans une pauvreté complète. Il s'était donné comme but d'effacer le luxe de la cour d'Avignon. Mais ses excès le firent sombrer dans le ridicule. Il dut abdiquer. Jean XXII le recueillit en Avignon dans une prison honorable, pendant que Robert d'Anjou assemblait une armée pour reprendre le contrôle de son territoire. Jean XXII était une personnalité extrêmement forte, doué d'une incroyable facilité de travail. On reste étonné de toutes les affaires qu'il traite à la fois. Maintien de la paix entre la France et l'Angleterre, lutte contre Louis de Bavière, contre ses franciscains révoltés, restauration des états pontificaux, endiguement de la politique angevine en Italie, mission dans les pays païens jusqu'à la Tartarie, réorganisation du Saint-Siège avec une extension de son action dans toute l'Europe par l'envoi de légats, répression des hérésies, sans oublier de menus problèmes comme les discussions entre Obreau de son Quercy d'origine. Au total, une administration de premier plan, avec peut-être cette sorte d'agitation naturelle à un homme qui, âgé et pressé de toutes parts, entreprenait 10 tâches à la fois. Un chef d'État remarquable, très capable de se faire respecter par les autres chefs d'État et de redonner une place honorée à la papauté dans la vie européenne. À sa mort, Pierre-Roger de Beaufort fut élu. Il prit le nom de Clément VI. Il devait régner 10 ans, de 1342 à 1352. C'était un brillant théologien qui reçut la soumission des franciscains et condamna plusieurs théories philosophiques. Ayant acquis la ville d'Avignon, il acheva le palais des papes et le fit somptueux, comparable à ceux des autres cours d'Europe. Cette splendeur rétablissait le Saint-Siège aux yeux des princes étrangers et aida le pontife dans sa politique internationale. Les grandes questions de l'époque étaient restauration de la paix entre la France et l'Angleterre, la ligue navale, la lutte contre les corsaires turcs et la protection des royaumes de Naples, vassal du Saint-Siège. Il se sentait le père des fidèles et même des hérétiques. Il se montra également grand dans la défense des Juifs. On sait que Carpentras abrite la plus vieille synagogue de France en exercice. En 1348, survint la peste noire, qui, selon certains historiens, décima les 3/5 de la population de la France et de l'Italie, plus de la moitié. Une catastrophe unique. Le pape ne chercha pas à se dérober malgré la mort de 9 cardinaux. Il publia une bulle accordant aux morts de la peste une indulgence spéciale, car, disait-il, l'esprit humain ne peut manquer de se retrouver affaibli par la maladie. Son successeur fut Innocent VI, un Auvergnat, qui dut faire face à des circonstances difficiles. Les grandes compagnies armées de malfaiteurs, souvent anciens soldats de la guerre de Cent Ans, commençaient à faire leur apparition jusque sous les murs d'Avignon. Il avait de la peine à conserver la place internationale de son prédécesseur. Il continua néanmoins la réforme des ordres religieux. Son successeur fut un gentilhomme du Gévaudan, abbé de Saint-Victor de Marseille. Guillaume de Guimard devint Urbain V. Ce fut le saint des papes d'Avignon. Il a été béatifié le 8 mars 1870 par Pie IX. À 12 ans, il entreprit à Montpellier puis à Toulouse des études de droit. Ses maîtres pensaient à lui confier une chaire de droit, mais il décida brusquement d'embrasser la vie bénédictine dans le couvent de Chirac, dont un de ses oncles était le prieur. Après avoir reçu le sacerdoce, il repartit comme professeur d'université à 25 ans. En 1342, il obtint à Montpellier le titre de docteur en droit canon. Il était très connu. Beaucoup venaient le consulter pour les riches, afin d'arbitrer leurs différends, et pour les pauvres, qui lui demandaient conseil pour leurs petites affaires de famille. Après ses cours, il ne manquait pas d'aller dans les églises faire aux fidèles de pieuses exhortations. Ses qualités attirèrent sur lui l'attention de la hiérarchie ecclésiastique. Il est nommé vicaire général à Clermont en 1349. Il gouverne comme prieur un monastère du diocèse d'Auxerre en 1352. Le pape Clément VI le met à la tête de l'abbaye de Saint-Germain à Auxerre. En 1352, le pape lui confia une mission difficile auprès de l'archevêque de Milan, puis plusieurs missions diplomatiques, toutes couronnées de succès. Sa vie a fait l'objet d'un article, un panégyrique, écrit par un moine bénédictin qui a gardé l'anonymat et paru dans l'Homme Nouveau le 6 décembre 2014. Je vous propose d'achever cette lecture passionnante lors de mon prochain essai. Celui-là était un peu plus court, mais il fait chaud, vous m'en excusez. Je vous souhaite un bon été et de bonnes vacances.